Je vais du coup essayer de dévoiler un petit peu ce que le droit peut dire hein, sur la créature de Frankenstein, sur le mythe de Frankenstein, et comment il l'utilise. Comment donc l'ombre de Frankenstein, pour reprendre un petit peu l'intitulé de ce colloque, comment l'ombre de Frankenstein intervient-elle dans la sphère juridique? Comment le droit est-il saisi par cette œuvre, par ce mythe, et comment lui-même se saisit-il du mythe de Frankenstein et de la créature? Je vais distinguer deux hypothèses, la première étant celle que ma collègue devait traiter et sur laquelle je comptais rebondir, et la deuxième que je détaillerai un peu plus. La première qui va constituer l'histoire de Frankenstein vue par les yeux du droit, par les yeux des juristes, hein, qui nous intéressera dans un premier temps. La seconde, l'histoire de Frankenstein, la référence à Frankenstein dans la plume, cette fois, des juristes. Comment les juristes utilisent-ils cette référence au mythe de Frankenstein? Dans un premier temps, l'histoire de Frankenstein vue par les yeux du droit. Comment est-ce que le droit aurait-il à traiter cette histoire, ce mythe, s'il avait aujourd'hui à en tenir compte? Tout part d'une violation du droit, d'une violation d'un grand principe, qui est le principe du respect dû au cadavre. En droit civil français en tout cas, le cadavre n'est pas une chose normale, n'est pas une chose comme les autres. C'est une chose que l'on qualifie de sacrée, et que beaucoup d'auteurs qualifient ainsi de sacrée. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que le cadavre a hébergé la vie. Le cadavre a été le support, hein, le substratum, pour utiliser un mot latin. Il a été le support de la personne juridique, et de ce fait, il s'en trouve véritablement protégé par le droit. Cette protection, si elle a eu lieu de tout temps, hein, que l'on se réfère par exemple au mythe d'Antigone, en droit français, elle a été véritablement cristallisée dans les textes dans les années 2000. À la suite d'une affaire qui est remontée jusqu'à la Cour de cassation, la plus grande juridiction dans l'ordre civil français, qui concernait une exposition de cadavres plastinés. Alors pour la petite anecdote, la plastination de cadavres, c'est un procédé de conservation et d'exposition des cadavres qui consiste à remplacer tous les fluides périssables par du plastique. Et donc à permettre de voir d'une manière pérenne le fonctionnement du corps humain, les organes, les muscles, lorsqu'ils fonctionnaient. Donc cette exposition a été interdite en droit français au nom de la dignité humaine, au nom de l'ordre public, hein, puisque notamment elle avait une vocation pécuniaire, si vous voulez. Il y avait une recherche du lucre, une recherche du profit. Ce que les juges sont venus préciser par rapport à cela, c'est que si cette exposition avait été faite dans un but pédagogique ou scientifique, elle aurait pu être menée. Mais comme le but principal était celui de la recherche du profit, elle a été interdite. À la suite de cela, on a eu dans notre droit civil un article qui est venu préciser véritablement le statut du cadavre et qui est venu dire que le cadavre, les restes humains, devaient être traités avec respect, dignité et décence. Autant de marques de traitement, d'un traitement digne, qui ne sont pas respectés par le docteur Frankenstein lui-même lorsqu'il cherche justement à recréer la vie en utilisant des morceaux de cadavres fraîchement décédés. Cela nous amène à nous poser la question: quel est le statut du corps? Quel est le statut du corps humain en droit? Question d'actualité aujourd'hui, puisque en droit, il y a ce que l'on appelle une summa divisio, une grande division, entre les choses et les personnes. C'est la plus grande distinction qui existe en droit français. C'est la distinction qui oppose les choses aux personnes, distinction que l'on fait remonter au droit romain, les personnes étant les seules à pouvoir s'exprimer sur la scène juridique, étant les seules entités à avoir, à être titulaires de droit, et donc à pouvoir posséder des choses, à pouvoir, si vous voulez, entretenir des liens juridiques avec les autres personnes. Donc la question se pose de savoir comment qualifier le cadavre. Le cadavre, très classiquement, on le qualifie comme une chose. Ce n'est plus une personne, puisque la personnalité juridique débute à la naissance et prend fin à la mort. Dès lors, si le cadavre est une chose, on l'a dit, c'est une chose sacrée, particulière, protégée. Mais qu'en est-il de Frankenstein? Cet assemblage de cadavres assemblés et réanimés, eh bien, là encore, cela va venir bouleverser notre summa divisio, notre grande distinction en droit français, puisque l'on ne sait pas s'il s'agit d'une personne ou d'une chose. Et c'est d'ailleurs là peut-être le point qui poserait un problème au droit français, puisque seuls peuvent être considérés comme responsables, et donc avoir à répondre de leurs actes, soit d'une manière pénale, c'est-à-dire être sanctionnés pour les infractions qu'elles ont commises, soit d'une manière civile, c'est-à-dire devoir réparer les dommages qu'ils ont subis, les personnes, les choses ne peuvent jamais être considérées comme responsables hein, en droit. On peut être, par opposition, responsable d'une chose que l'on a sous sa garde, très classiquement une personne qui lance un ballon de foot sur une autre qui lui entraîne des dommages corporels, ou qui va briser une vitre de la propriété de quelqu'un d'autre, sera responsable hein, des dommages causés par la chose qu'elle avait sous sa garde, hein, selon la définition juridique de la chose. Dès lors, la créature de Frankenstein, là encore, poserait problème. On ne sait pas véritablement comment la qualifier, savoir s'il s'agit d'une chose et d'une personne. Et cela, en droit, fait écho aujourd'hui à une problématique que l'on a quant à savoir comment qualifier certaines entités. Aujourd'hui, la qualité de personne juridique, elle est restreinte, elle est exclusive aux personnes humaines, aux êtres humains, qu'ils soient solitaires, c'est la personne physique, ou en collectivité, c'est la personne morale, hein, l'État, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle société, qui se voit dotée de la personnalité morale. Mais il y a une certaine exclusivité humaine. Aujourd'hui, on voit que cette exclusivité, elle est remise en question. Pas forcément par des créatures de Frankenstein, mais par les animaux, dont certains voudraient qu'ils se voient reconnaître la personnalité juridique, ce qui est le cas dans certains États, par des entités naturelles, hein, qu'on pense à un fleuve qui a obtenu la personnalité juridique, à des requins à côté de l'Australie qui ont obtenu la personnalité juridique et qui ont, dès lors, par l'intermédiaire de représentants, pu faire exercer certains droits, certaines protections, ou encore des entités religieuses. Une idole, par exemple, a pu en Inde obtenir la personnalité juridique, et les représentants de cette idole ont pu exercer une action pour récupérer des biens ayant été consacrés à cette idole. Il y a également un quatrième cas qui peut-être peut nous intéresser davantage, c'est celui de l'intelligence artificielle ou des robots. Certains chercheurs, certains professionnels militent en faveur de la reconnaissance de la personnalité juridique des robots ou des intelligences artificielles, de manière à ce que lorsque ces robots ou ces intelligences artificielles commettront un dommage, engendreront un dommage, lorsque leur action engendrera un dommage, eh bien, le patrimoine de ce robot ou de cette intelligence artificielle puisse être mobilisé pour réparer ce dommage. Ce n'est néanmoins pas d'actualité aujourd'hui, hein, en tout cas, pour ce qui est du droit positif, le droit à l'heure actuelle refuse d'accorder la personnalité juridique, en France en tout cas, à une entité autre qu'humaine. C'est dès lors ce que l'on appelle la dignité de l'être humain, l'éminente dignité de l'être humain, qui engendre effectivement des droits, le fait d'être seul sujet de droit, donc seul capable de s'exprimer sur la scène juridique, mais également des devoirs. En parlant de dignité humaine, l'un des arrêts que l'on cite très classiquement en première année pour introduire le sujet, c'est l'arrêt Morsan-sur-Orge de 1995. Vous avez dû très certainement en entendre parler, ne serait-ce qu'avoir entendu les faits. C'est l'interdiction du lancer de nains. En effet, donc dans les années 95, il était une attraction assez populaire d'une personne de petite taille qui se déplaçait de village en village dans les discothèques pour se faire lancer par les clients de la discothèque, et à celui qui lancerait la personne de petite taille le plus loin possible et remportait la mise du soir. Cette attraction, le maire de la commune de Morsan-sur-Orge l'a jugée attentatoire à la dignité humaine, a pris un arrêté interdisant cette attraction. C'est allé jusque devant le Conseil d'État, donc qui est l'autre juridiction suprême, mais cette fois de l'ordre administratif, qui a effectivement reconnu que cette attraction portait atteinte à la dignité humaine et donc devait être interdite. Quand bien même, la personne qui s'y prêtait, le nain, hein, Monsieur Wackenheim, lui était d'accord pour ce faire. Cela constituait son gagne-pain. Il était volontaire. Donc on le voit, le principe de dignité humaine, si il engendre cette exclusivité de la personne sur la scène juridique, permet également d'imposer à l'homme un certain comportement, un comportement qui doit être jugé comme digne. Effectivement. Un certain comportement qui va poser des limites en un sens, hein, à la volonté individuelle au nom de quelque chose de transcendant, au nom de l'humanité en tant que groupe et en tant que qualité. Cette notion de dignité humaine, aujourd'hui, on considère qu'il s'agit là du fondement de l'ensemble de l'ordre juridique, hein, de l'ensemble de l'ordre normatif intitulé le droit. Et dès lors, c'est lui qui fonde également toutes les protections dont bénéficie aujourd'hui l'espèce humaine en droit, notamment les protections en matière génétique. Il est interdit, selon le Code civil, de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. C'est cette dignité individuelle, le fait d'être humain et de devoir le rester, qui justifie, en un sens, que l'on protège hein, l'humanité telle qu'elle est et telle qu'elle doit le rester. L'espèce humaine doit rester humaine. Voilà donc, dès lors, ce qui pourrait, en un sens, s'opposer à la volonté du docteur Frankenstein, puisqu'il porte atteinte aux cadavres qui sont des restes, à nouveau, de personnes humaines, il porte atteinte à la dignité humaine, puisqu'il est susceptible de créer une nouvelle espèce, chose qu'il s'abstient de faire au dernier moment, puisqu'il est capable de créer une nouvelle espèce à partir de l'espèce humaine, il peut porter atteinte à l'humanité en tant que groupe, et dès lors, là-dessus, l'on pourrait lui opposer hein, ces articles assez récents, puisqu'ils datent d'une loi de bioéthique de 1994, hein, et de ses évolutions encore plus récentes. Donc voilà comment les juristes, comment le droit pourrait saisir l'histoire de Frankenstein, du docteur Frankenstein et de sa créature aujourd'hui, si elle arrivait devant les tribunaux. Néanmoins, ce n'est pas véritablement cela qui m'intéressait. Ça, c'était davantage la partie que je laissais à ma collègue. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est comment les juristes, comment la sphère du droit va se saisir de cette histoire et va la retranscrire dans la doctrine, dans les textes. Hein, puisque, de manière générale, la littérature et la science-fiction en particulier constituent un certain fonds commun de culture des juristes qui vont l'utiliser pour créer ce que l'on appelle des cités repoussoires. En un sens, des cités dans lesquelles l'on ne veut pas vivre, nous montrer des exemples de ce qui peut advenir si l'on se laisse tenter par tel ou tel choix, si l'on se laisse tenter par telle ou telle chimère, tout ce qui pourrait découler de certains choix. Et Frankenstein ne fait pas exception. Frankenstein est très souvent cité, il suffit de faire une recherche, par exemple, dans la base de données d'Alose, qui constitue l'une des grandes références des juristes français. On voit qu'il y a un foisonnement de résultats. Bon, et si l'on décortique, on peut distinguer trois types de résultats en la matière. Le premier, peut-être celui qui nous intéresse le moins, c'est l'utilisation de la notion de Frankenstein, le qualificatif de Frankenstein, pour critiquer les textes. Et là, on voit la confusion qu'il y a entre le docteur Frankenstein et sa créature, puisque la confusion est systématiquement faite en la matière. On qualifie souvent un texte de texte Frankenstein, d'article Frankenstein, lorsque on cherche à critiquer un article de loi qui a été constitué de briques et de brocs, un assemblage de dispositions éparses que l'on a retrouvées dans tel ou tel code, ou des dispositions que l'on a cherché à ressusciter, entre guillemets, des dispositions abrogées mais que l'on a cherché à ramener d'entre les abrogées pour justement les ramener à la vie juridique. Dispositions qui, justement, selon les critiques, ne sont plus d'actualité ou sont totalement obsolètes. Donc il y a cette première référence à la créature de Frankenstein, au mythe de Frankenstein dans la sphère juridique, mais c'est davantage justement pour, si vous voulez, souligner cette distinction entre les personnes et les choses, qu'elle est utilisée dans les textes, et c'est là que c'est plus important. Souligner la distinction, donc à nouveau la summa divisio entre les personnes et les choses, que les auteurs, si vous voulez, utilise cette référence à la créature de Frankenstein. Ils vont venir invoquer ce mythe pour justement inciter les scientifiques, inciter les juristes à bien distinguer les personnes qui sont sacrées, qui doivent être protégées, des choses qui, à l'inverse, doivent en être séparées, les choses qui sont objets de droit, les personnes qui sont sujets de droit. Cette distinction des choses et les personnes, à nouveau, elle constituera, selon certains auteurs, l'enjeu du 21e millénaire. pardon, du 21e siècle. L'enjeu du 21e siècle, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'on a ces tentatives de réifier la personne et des tentatives de personnifier les choses. La personnification des choses, je vous en ai brièvement parlé lors de la première partie, mais l'on a également des tentatives de réification de la personne, c'est-à-dire de traiter les personnes comme des choses. Mouvement auquel le droit français tente de s'opposer très clairement, mais l'on voit qu'il y a bien un brouillage des frontières. L'exemple typique qui est pris, c'est l'exemple des sex dolls, les poupées, si vous voulez, les poupées sexuelles, qui ont un grand succès, notamment au Japon, aujourd'hui deviennent tellement réalistes, tellement, avec les progrès en matière d'intelligence artificielle et de robotique, que l'on s'y croirait. La distinction entre les personnes et ces choses anthropomorphiques, c'est-à-dire qui ont la forme de personnes, tend à se brouiller. Un robot a à nouveau obtenu la personnalité juridique en Arabie Saoudite, le robot Sophia. En matière de sex doll, c'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, on cherche à ce que ces robots de plus en plus perfectionnés reproduisent des comportements humains. Il y en a, par exemple, qui savent imiter certains comportements humains, notamment la possibilité de se refuser à l'acte sexuel. Donc, des robots qui servent à reproduire un viol. Se pose la question de savoir, est-ce qu'il faut interdire ou non ces robots, sachant que ce qu'ils servent à reproduire avec les personnes qui les utilisent, s'assimile à un viol, s'assimilerait à un viol s'il s'agissait d'une personne en face. L'on voit donc, si vous voulez, là, le brouillage qu'il y aurait entre les personnes et les choses, brouillage à propos duquel est à nouveau invoqué ce mythe de Frankenstein qui vient donc à nouveau porter atteinte à cette distinction entre les personnes et les choses. Et enfin, la troisième, et sur laquelle je vais insister, la troisième occurrence, si l'on veut, dans laquelle le mythe de Frankenstein est convoqué, c'est en matière scientifique. Il est invoqué, et généralement il n'est pas invoqué tout seul, il est invoqué avec le mythe du golem et avec le mythe de Prométhée. Des mythes dans lesquels la créature va se retourner contre son créateur, pour ce qui est du golem, ou dans lequel la science, le scientifique, sera puni parce qu'il a cherché à dépasser sa juste place dans l'univers, parce qu'il a cherché à aller plus loin que la place qui lui était attribuée. C'est le mythe de l'hubris, effectivement. Et Frankenstein a pu être qualifié de mythe de l'hubris en ce sens. L'homme cherche à s'attribuer, si vous voulez, le pouvoir de la vie après avoir... Et cherche à s'attribuer également le pouvoir sur la mort. D'ailleurs, en voyant l'affiche du colloque, cela m'a fait penser, puisque l'on y voit une personne activer un interrupteur électrique, cela m'a fait penser à toutes les problématiques qui se posent en matière de peine de mort, puisque là, le docteur Frankenstein insuffle la vie à une créature de la même manière que, aux États-Unis notamment, avec la chaise électrique, on insuffle la mort. C'est le pouvoir de l'être humain sur la vie, et un pouvoir qui n'est pas naturel, si l'on veut, puisque on cherche à faire advenir la vie d'une autre manière, d'une autre manière surnaturelle que par la procréation naturellement. Dès lors, ce mythe-là, il est mobilisable, on le voit à l'envi, en matière de progrès scientifique, que ce soit pour les progrès récents en matière de procréation médicalement assistée, ou si l'on va encore plus loin, pour ce qui est des progrès scientifiques, notamment en ce qu'ils sont mobilisés par le transhumanisme, qui cherche à faire advenir un être humain immortel, un surhomme, qui dépasserait l'humanité, qui ferait que les êtres humains que nous sommes seront les chimpanzés du futur. L'on voit que, on comprend dès lors pourquoi le mythe de Frankenstein est mobilisé en la matière pour justement avertir les scientifiques en la matière du danger qu'il y aurait à modifier l'espèce humaine, à modifier l'être humain, pour faire advenir cet être humain augmenté qui dépasserait l'être humain, les êtres humains que nous sommes, et viendrait le remplacer. Dès lors, les juristes militent, en tout cas beaucoup de juristes qui invoquent ce mythe de Frankenstein, militent pour que le droit se fasse encore plus conservateur qu'il n'est en la matière, et interdisent, en tout cas posent des limites au progrès scientifique, comme on l'a dit ce matin, pour qu'il pose une conscience à la science qui doit être limitée par le droit, notamment par le droit en tout cas, hein, qui doit venir poser les limites extrêmes que la déontologie scientifique ne peut pas se poser. Pour prendre un exemple tout simple, en matière d'expérimentation sur le vivant humain, l'on en vient à traiter les sujets d'expérience comme des choses, si vous voulez, comme des moyens au service d'une fin supérieure, que ce soit le progrès des connaissances, que ce soit la thérapie, le progrès de la médecine, le progrès de la connaissance en matière d'humanité. Dès lors, il y a naturellement des limites qui doivent être posées à cela. On ne peut pas expérimenter sur le vivant humain comme on expérimenterait sur de la matière brute, naturellement. Dès lors, voilà, le but du droit, c'est bien de venir poser des limites, hein, à cette science qui, sans la conscience que constitue le droit, hein, pourrait éventuellement tomber dans l'excès, dans l'hubris qui caractérise notamment le docteur Frankenstein. En ce sens, on le voit bien, l'ombre de Frankenstein s'étend jusque dans la sphère juridique, et je vais m'arrêter là.